en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la séance de l'Académie des sciences morales et politiques qui s'est déroulée le lundi 15 mars 2010. Ce jour-là, l'académicien Renaud Denois de Saint-Marc, membre de l'Académie depuis 2004 dans la section générale et qui a fait l'essentiel de sa carrière au Conseil d'État, a prononcé une communication sur la fonction de conseil en démocratie. Retrouvons Renaud Denois de Saint-Marc en grande salle des séances.
J'espère, Monsieur le Président, que vous ne regretterez pas de m'avoir confié ce sujet qui peut être traité sous différents angles, philosophiques, historiques, sociologiques, et puis tout banalement juridiques et administratifs. Alors bien sûr, cette acception que j'ai retenue, car c'est sous cet angle seulement que j'ai quelques compétence à le traiter et je m'en tiendrai au cas de la France contemporaine. Autre limite à mon exposé, je ne traiterai que de la fonction de conseil organisée, officielle, émanant d'organismes ayant pignon sur rue, ayant une existence consacrée par le droit et qui sont extérieurs aux organismes investis du pouvoir de décision. Je n'évoquerai donc pas la fonction de conseil exercée par l'entourage des décideurs, qu'ils soient conseillers dans un cabinet ministériel, qu'ils soient conseillers du Premier ministre à l'hôtel Matignon, qu'ils appartiennent au secrétariat général de la présidence de la République ou qu'ils soient des conseillers officieux, sollicités ou autoproclamés de ces visiteurs du soir qui viennent avec un motto couleur de muraille donner aux décideurs des conseils en général assez déconnectés de la réalité. Et ce sont des gens que les conseillers officiels n'aiment pas beaucoup. Bien. Mais ça, j'en parlerai pas parce que c'est de la consultation interne à l'exécutif essentiellement. Je ne parlerai pas des groupes de pression parce que le conseil, dans un État contemporain, c'est celui qui est sollicité par le décideur, que le décideur le fasse librement ou qu'il y soit contraint par une règle qui s'impose à lui. En tout cas, le décideur en prend l'initiative. Il consulte un organisme existant. Tout autre est la pression. Elle n'est pas sollicitée par le décideur. Elle s'exerce sur lui de l'extérieur, parfois de façon ouverte, parfois de façon subreptice ou détournée, et dans le seul objectif d'infléchir les décisions dans un sens qui lui soit favorable. Ce sujet mériterait à lui seul une étude, ne serait-ce qu'à cause du développement du lobbying dans notre pays, qui se manifeste aujourd'hui de façon beaucoup plus ouverte, qui se manifeste à visage découvert, alors que naguère il se cachait pour exercer son influence, et ce côté ouvert du lobbying procède, à mon avis, de l'expérience qu'ont connue des États voisins et de l'expérience que connaissent aujourd'hui les institutions de l'Union européenne, où le lobbying s'exerce à visage découvert à partir d'officines qui ont une plaque de cuivre vissée sur la porte dans la rue et qui exercent leurs fonctions de façon tout à fait officielle. Le lobbying a certainement contaminé notre État français. Et devant l'Assemblée nationale ou le Sénat aujourd'hui, des amendements parlementaires sont déposés qui sortent à la virgule près d'officines privées. Bref. Alors moi, je m'en tiens au conseil officiel. C'est le seul que je connaisse. Le lobbying, je n'ai jamais pratiqué et je l'ai peut-être un peu subi sans le savoir ou souvent en le sachant. Mais c'est une autre histoire. Bien. Alors, mon exposé prendra la forme de deux propositions. La fonction de conseil est légitime, me semble-t-il, dans un État démocratique. Très développé dans notre pays, la fonction de conseil pèse sans conteste sur le pouvoir de décision. Alors, la fonction de conseil est légitime dans un régime démocratique. D'abord, elle est contraire, me semble-t-il, à aucun principe de la démocratie. Dès lors que la décision relève, en dernière analyse, de la seule autorité émanant du peuple souverain, soit le législateur, ou qui en procède immédiatement, c'est le cas du gouvernement, et que le sens et la portée de cette décision n'est pas juridiquement affecté par la consultation et par le sens de la consultation. Le plus souvent, en effet, les organismes dotés d'une attribution consultative sont placés auprès de l'exécutif. Le Premier ministre n'est pas trop encombré d'organismes consultatifs, j'y reviendrai tout à l'heure. Les ministres, qui au contraire ont un grand nombre d'instances consultatives autour d'eux, mais aussi les instances déconcentrées, soumises au pouvoir hiérarchique du gouvernement. C'est le cas des préfets, qui sont également entourés d'un grand nombre d'organismes consultatifs. Et enfin, les collectivités décentralisées, les régions, les départements, les communes, ont la possibilité, ont le droit d'organiser des procédures consultatives dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues et elles y ont recours. Il arrive toutefois que le Parlement dispose d'organismes consultatifs. Alors aujourd'hui, ce sont des instances que le Parlement a la faculté de consulter sans jamais y être tenu. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Nous avons connu, il n'y a pas très longtemps, la situation dans laquelle l'Assemblée nationale était tenue par une procédure consultative. Ça a été le cas de la IVe République jusqu'à la révision constitutionnelle de 1954. Dans le régime originel de la IVe République, le Conseil de la République n'avait qu'un rôle consultatif, comme d'ailleurs son appellation le montrait, obligatoire, certes, mais dont l'exercice ne liait en rien l'Assemblée nationale, qui seule votait la loi, comme l'exprimait l'article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, l'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ajoutait d'ailleurs, elle ne peut déléguer ce droit, mais c'est un autre problème. On se souvient aussi que le projet de révision repoussé par le référendum du 27 avril 1969 avait pour objet de ravaler le Sénat autrement composé au rang d'organisme consultatif, et cela précisément parce qu'il n'aurait plus été élu au suffrage universel, même indirect. Cette situation, nous ne la connaissons plus aujourd'hui, et le Sénat, salut notre confrère, son ancien président, est quasiment l'égal de l'Assemblée nationale, sauf dans le cadre de la navette. Aujourd'hui, cependant, chacune des deux assemblées parlementaires dispose du pouvoir de demander des avis au Conseil économique et social, devenu, par la grâce de la révision constitutionnelle 2008, le Conseil économique, social et environnemental. Et l'Assemblée nationale, le Sénat, peuvent le consulter sur tout problème de caractère économique, social et environnemental. Mais dans la pratique, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat n'usent de cette possibilité. Pourquoi ? Il y a d'abord le fait que le Parlement est jaloux de ses prérogatives et il n'est pas soucieux de les partager, même avec un organisme consultatif. Mais je crois qu'il y a une seconde raison, qui n'est peut-être pas la moindre, c'est que le champ de la consultation du Conseil économique qui est ouvert aux deux chambres est tellement large qu'il comprend par lui-même la cause de l'oubli dans lequel cette procédure consultative est tombée. La même révision de 2008, grande révision constitutionnelle à laquelle a coopéré notre confrère Pierre Mazeaud, a ouvert au président de chacune de ces deux assemblées, la possibilité de soumettre au Conseil d'État, pour avis, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose, et la Constitution ne précise pas les motifs de l'opposition, ce qui veut dire que cette opposition peut être tout à fait discrétionnaire et que l'auteur de la proposition de loi n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il s'oppose à ce que le texte qu'il a conçu soit soumis à l'avis du Conseil d'État. On ne dit pas ce qui se passe lorsque une proposition de loi est déposée par plusieurs membres conjointement. J'incline à penser que si l'un s'y oppose, le texte n'ira pas devant le Conseil d'État. Je crois que c'est l'interprétation des auteurs du projet de révision de la Constitution. Alors c'est là une innovation. C'est là une innovation profonde. La compétence consultative générale du Conseil d'État, en effet, en matière législative, est récente. La règle n'a été posée que par, enfin, sauf à remonter au Premier Empire, mais dans la France moderne, contemporaine, la règle n'a été posée que par l'ordonnance du 31 juillet 1945, qui n'a qu'une valeur législative. Et elle a été exaucée au niveau constitutionnel par la Constitution de 1958. Et jusqu'à présent, cette compétence ne s'exerçait qu'à l'égard des seuls projets de loi, c'est-à-dire des textes d'initiative gouvernementale. À ma connaissance, la compétence exclusive du Conseil d'État à l'égard des propositions de loi a joué une fois. Le président de l'Assemblée a saisi l'an dernier le Conseil d'État d'une proposition de M. Warsmann, qui est à l'heure actuelle le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, proposition qui tendait à la simplification du droit, et l'examen de cette proposition de loi a d'ailleurs donné lieu à une très longue séance de l'Assemblée générale du Conseil d'État, durant laquelle l'auteur de la proposition de loi, M. Warsmann, est venu lui-même défendre sa proposition. Mais j'incline à penser que cette procédure consultative demeurera exceptionnelle, qu'il y aura une grande réticence des parlementaires à soumettre leurs propositions à l'avis du Conseil d'État. Et je dois dire que je le souhaite aussi, car je ne crois pas que le Conseil d'État gagnerait beaucoup à être trop directement impliqué dans le débat politique. Les avis qu'il donne au gouvernement sont médiatisés précisément par le gouvernement, tandis que là, c'est un avis directement donné aux chambres, et personnellement, je ne considère pas que cette innovation soit heureuse, mais enfin, elle existe, j'en prends acte. Alors, en dehors de ces exceptions, c'est-à-dire l'avis du Conseil économique, social et environnemental et avis du Conseil d'État, les procédures consultatives ne se déroulent pas devant le Parlement, mais elles se déroulent auprès des instances exécutives, et dans leur principe, elles ne sont pas illégitimes en démocratie. La question de leur légitimité pourrait se poser si la procédure consultative aboutissait à transférer, de fait, le pouvoir de décision, ou même simplement l'initiative de la mesure, de l'autorité régulièrement investie de ce pouvoir à l'organisme consultatif. Ce serait le cas si l'organisme consultatif avait un pouvoir d'avis conforme, ou même un pouvoir de proposition qui lui donne l'initiative, qui lui confie la chiquenaude initiale. Mais à ma connaissance, aucune instance consultative ne dispose d'une telle prérogative dans le domaine de l'édiction de la règle de droit, dans le domaine réglementaire, qui est d'ailleurs le domaine dans lequel je me cantonne. Je ne veux pas traiter ici du pouvoir de consultation dans les décisions individuelles, qui nous amèneraient beaucoup trop loin, je m'en tiens, pour ce qui concerne la démocratie, à l'édiction de la règle de droit. Je ferme la parenthèse. Donc, aucune instance consultative, à ma connaissance, ne dispose d'un pouvoir d'avis conforme ou d'un pouvoir de proposition en matière réglementaire, en matière d'édiction de la règle de droit qui viendrait brider l'initiative de la compétence de l'autorité légitime. Donc, je ne connais pas de cas de proposition. J'en connais dans le cas de décisions individuelles, notamment dans le domaine de l'administration universitaire, qui est familier à bon nombre d'entre vous. Quant aux avis conformes, il n'en existe qu'à propos de mesures touchant à l'état des personnes ou à la liberté individuelle, et ces avis conformes émanent d'organismes collégiaux agissant de façon quasi-juridictionnelle, et encore une fois dans le domaine de décisions individuelles. C'est le cas, par exemple, de la déchéance de la nationalité française pour les personnes qui ont acquis cette nationalité. On ne peut pas déchoir la nationalité française quelqu'un qui est français de naissance, et qui cette déchéance ne peut être prononcée par le gouvernement que pour des motifs limitativement énumérés par la loi, c'est-à-dire par le code civil, et qui est subordonnée à l'avis conforme du Conseil d'État. C'est aussi le cas de l'extradition d'un étranger réclamé par une juridiction d'un État étranger, qui est subordonnée à l'avis favorable de la chambre d'accusation. L'avis défavorable fait obstacle au décret d'extradition, mais encore une fois, il s'agit là que de décisions purement individuelles. Et non seulement la fonction de consultation telle qu'elle est conçue chez nous ne me paraît pas contraire au principe de la démocratie, mais encore elle répond à certains des besoins des sociétés démocratiques contemporaines, l'information, la représentation, la participation. L'information du décideur est la justification la plus ancienne des organismes consultatifs, et elle est très antérieure à l'avènement de la démocratie. C'est le rôle qu'a joué le Conseil d'État sous l'Ancien Régime depuis Philippe le Bel jusqu'à 1790, et qui s'est accru progressivement jusqu'au XVIIe siècle, avant de décliner lorsqu'une véritable administration permanente, compétente, a fait son apparition sous le règne de Louis XIV. Et le Conseil d'État, comme vous le savez, a réapparu dans la Constitution de l'an 8, et on sait le rôle qu'il a joué sous le Consulat et l'Empire, bien au-delà d'une fonction purement consultative. Mais la sociologie administrative veut que nous ne nous focalisions pas sur le Conseil d'État et que nous prenions bien conscience que la fonction consultative va bien au-delà. Les autorités exécutives des régimes démocratiques ont, tout autant que le régime autoritaire, besoin d'être informées pour exercer convenablement un pouvoir normatif, et l'intervention croissante de l'État dans la vie économique et sociale a conduit à multiplier, parfois à l'excès, les organismes consultatifs dans les domaines les plus divers pour préparer des décisions de plus en plus précises, de plus en plus techniques. Alors, il suffit de consulter le bottin administratif pour prendre conscience de cela et pour dresser une liste, sans doute non exhaustive d'ailleurs, des multiples commissions qui sont censées éclairer l'action de l'administration. Alors j'ai pris un exemple, le ministère de l'Environnement. Pour s'en tenir à l'essentiel, et toujours en me référant au bottin administratif, le ministre en charge de l'Environnement est flanqué de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, du Conseil national de la protection de la nature, du Conseil national du bruit, du Conseil national de l'air, du Conseil national de l'eau, du Conseil supérieur des établissements classés, du Conseil supérieur de la chasse et de la faune sauvage. C'est d'ailleurs participer aux deux derniers de ces conseils supérieurs. Le Premier ministre est assisté notamment de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, du Conseil d'analyse de la société, du Conseil d'analyse économique, du Conseil d'orientation des retraites. Je prends cet exemple parce que jusqu'à une époque très récente, autour du Premier ministre, il y avait très peu d'organismes consultatifs constitués de façon permanente. Là, quand vous consultez le bottin administratif, vous trouvez au moins ces quatre grands conseils. Ainsi, le besoin d'information a suscité l'institution de plusieurs organismes, d'un grand nombre d'organismes, certains fort modestes, aux compétences étroitement limitées, fonctionnant auprès d'une seule direction d'administration centrale, d'autres, au contraire, prestigieux, érigés au rang d'autorité administrative indépendante, comme par exemple le Conseil consultatif national d'éthique, même si, bien sûr, ils n'ont pas pouvoir de décision. Il est à noter d'ailleurs que ce rôle d'information n'est pas univoque, il s'exerce de façon réciproque. Si le ministre peut être éclairé par l'avis qu'il sollicite des administrés, c'est d'ailleurs l'objet de la consultation. Ces derniers peuvent aussi être informés d'intentions, parfois encore informulées, de l'exécutif. La consultation peut servir au gouvernement pour lancer des ballons d'essai, pour tester sur un organisme consultatif des projets politiques encore dans les limbes. C'est par exemple ce qui se passe aujourd'hui au sein du Conseil d'orientation des retraites, où toutes les possibilités diverses et variées sont étudiées. Alors un autre besoin, autre que celui d'information, peut être ressenti, sans qu'il soit exclusif de celui que je viens de mentionner, c'est celui de la représentation. Ce souci s'est manifesté d'abord dans la fonction publique et il s'est concrétisé avec l'institution des organismes consultatifs existants à l'échelon central, Conseil supérieur de la fonction publique et puis Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il s'agit de la magistrature et au niveau Conseil supérieur de la fonction hospitalière, etc. Et au niveau des services, ce sont les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires, les premières ayant une compétence dans le domaine de la gestion des personnels et les seconds une compétence dans le domaine de l'organisation des services. Alors ce souci de représentation s'est également manifesté dans le monde du travail, Commission nationale de la négociation collective, Conseil national de l'emploi, dans lesquelles les organisations syndicales de salariés sont représentées. Il s'est étendu de façon générale à la gestion des services publics sous l'influence des mouvements consuméristes. Très souvent, auprès des grands organismes gérant des services publics, il existe des conseils consultatifs des usagers. De nombreux conseils, comités, commissions regroupent donc les usagers des services publics qui souhaitent faire entendre leur voix auprès des gestionnaires des services publics. La représentation des intéressés est plus ou moins bien assurée à la vérité. Si la désignation résulte de l'élection, elle est en principe irréprochable, sous réserve des modalités de celle-ci, de la détermination du corps électoral et de la réelle participation des électeurs. La désignation par l'administration est-elle plus contestable? Si c'est l'administration qui désigne elle-même les usagers, la représentation des usagers, on peut la soupçonner. C'est aussi le cas lorsqu'il s'agit de choisir des personnalités qualifiées, que dans le langage administratif courant, on dénomme des PQ. Les personnalités qualifiées sont choisies de façon assez discrétionnaire par le ministre. Quant au choix des usagers d'un service, de sérieuses difficultés se manifestent souvent, tant il est difficile de s'assurer de leur véritable représentativité, sauf à recourir aux dirigeants d'associations d'usagers, mais qui sont parfois des associations autoproclamées. Enfin, la revendication des administrés de leur groupement se manifeste par la volonté de participer. Elle se concrétise de deux façons. La première est celle des référendums locaux consultatifs. Cette procédure a été utilisée par les collectivités territoriales avant que d'être formalisée dans notre droit, il y a une vingtaine d'années. Il ne faut pas la confondre avec le référendum décisionnel qui existe en vertu de l'article 72.1 de la Constitution, qui date de la révision de la Constitution voulue par M. Raffarin, Premier ministre. Il s'agit donc d'une simple consultation aujourd'hui régie par le Code général des collectivités territoriales qui décrit de façon assez précise les procédures qu'il convient de suivre, et je vous en fais grâce. Ces dispositions sont applicables dans tous les types de collectivités locales, régions, départements, communes, mais c'est le cadre communal qui paraît le plus adapté à cette forme de démocratie participative. La loi prévoit que cette consultation peut être organisée soit à l'initiative des élus eux-mêmes, soit à celle d'une partie des électeurs. La décision de recourir à cette consultation appartient à l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale, c'est une commune, le conseil municipal. Après la consultation, la décision n'appartient qu'à l'autorité compétente de la collectivité, soit le maire, soit le conseil municipal, selon la nature de la question posée, si le référendum consultatif est organisé dans le cadre communal, ce qui est le plus fréquent. Mais évidemment, le sens de la consultation va peser sur les épaules du maire, s'il s'agit du maire, ou sur les épaules des conseillers municipaux, si c'est le conseil municipal qui est compétent. Mais à ma connaissance, cette forme de participation directe du corps électoral n'a pas connu un engouement particulier, et les édiles communaux ont en général une certaine réticence à l'égard du maniement du référendum, même consultatif. Alors l'autre façon de participer est celle des débats publics. Alors c'est dans le domaine des grands équipements collectifs et dans l'aménagement de l'espace qu'on va rencontrer ces manifestations les plus marquantes. Depuis très longtemps, on connaissait et on connaît toujours l'enquête publique, ouverte à tous les intéressés qui peuvent librement faire valoir leur opinion sur un projet de déclaration d'utilité publique, préalable en général à l'expropriation d'un bien immobilier. Cette procédure, qui a été étendue à d'autres domaines, comme l'édiction de servitude d'utilité publique, le classement d'un site, la publication des documents d'urbanisme qui ont pour objet de déterminer l'affectation ou à tout le moins la vocation des différentes parties du territoire d'une commune, est-ce que telle et telle partie doit être classée en zone inondable, par exemple. Enfin, cette procédure a été transposée sous la forme de débats publics préalables aux décisions relatives aux grands aménagements et aux grands projets d'équipement tels qu'une voie ferrée, qu'une autoroute, que l'installation d'une centrale nucléaire, etc. Et cette revendication de participation trouve aujourd'hui un fondement constitutionnel dans la Charte de l'environnement de 2004, dont l'article 7 énonce que, je cite, « toute personne a le droit, dans les conditions définies par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » Voilà donc le paysage dans lequel intervient cette consultation dans notre pays est très développé. Cette obligation de consulter pèse sur le pouvoir de décision. On dirait normal qu'elle pèse parce qu'elle est étudiée pour, comme aurait dit l'autre. La fonction consultative s'est beaucoup développée dans notre pays. Elle s'est essentiellement développée auprès des organes centraux de l'État, ainsi qu'à côté de ses échelons déconcentrés. C'est là un phénomène normal dans un État qui se caractérise par deux traits, la centralisation administrative, malgré des efforts en sens contraire, et l'intervention marquée de l'État, et c'est donc auprès de l'exécutif qu'on va trouver la manifestation la plus visible de ce phénomène. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la possibilité offerte aux législateurs de consulter soit le Conseil d'État, soit le Conseil économique. C'est là un phénomène tout à fait marginal et qui, à mon avis, est destiné à le demeurer. C'est donc le gouvernement qui est assujetti à des procédures consultatives. Le Conseil économique, social et environnemental, puisque tel est aujourd'hui son nom, a une compétence consultative très large pour le gouvernement. Mais la consultation de celui-ci est, dans la plupart des cas, purement facultative. Il peut être consulté par le gouvernement sur, je cite, « tout problème de caractère économique, social et environnemental ». Et j'ai déjà dit que la généralité des termes utilisés nuit à la consultation du Conseil économique, ainsi que sur, de façon plus précise, les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Il n'existe, d'après la Constitution, que deux cas de consultation obligatoire. Le gouvernement est tenu de consulter le Conseil économique sur les projets de loi de plan, mais on sait qu'aujourd'hui la planification, même indicative, n'a plus cours, mais que ces mots sont aujourd'hui dénués de toute portée, et sur les projets de loi de programmation à caractère économique, social et environnemental, c'est-à-dire, selon la définition qu'en a donnée le Conseil constitutionnel, ceux qui ont pour objet de faire approuver par le Parlement des dispositions fixant des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'action de l'État. Il est arrivé au moins une fois que le Conseil constitutionnel censure l'omission de consulter le Conseil économique et social. Il l'a fait le 21 avril 2005 à propos de la loi d'orientation et de programmation pour l'avenir de l'école. Cela dit, l'activité proprement consultative du Conseil économique et social est très faible. Depuis l'année 2003, c'est en 2008 qu'il a été saisi le plus souvent par le gouvernement. Mais le nombre de ces saisines est faible, il est de 8. En 2009, il n'a été saisi que deux fois. À la vérité, le Conseil économique et social fonctionne sur la base de l'autosaisine, ce qui illustre bien qu'il est assez largement ignoré de l'exécutif comme du Parlement. En effet, lorsqu'un organisme consultatif est contraint de se saisir lui-même pour justifier son existence, c'est le signe qu'il est oublié des personnes qui ont pour rôle de le consulter. Et je me souviens personnellement des visites que me faisait le secrétaire général du Conseil économique et social lorsque j'étais moi-même secrétaire général du gouvernement. Et mon collègue, qui était un membre du Conseil d'État, venait m'exposer les sujets sur lesquels le Conseil économique et social souhaitait être consulté par le gouvernement. Et je dois à la vérité de dire que ces souhaits étaient très rarement exaucé. Le Conseil économique et social, aujourd'hui, vit sous le règne de l'autosaisine, c'est-à-dire qu'il ronronne aimablement à son rythme et selon ses propres souhaits, ses propres demandes, mais il est assez largement ignoré des pouvoirs publics. Je vois ici un ancien membre du Conseil économique et social qui ne sera sûrement pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais même quand il se sera exprimé, je maintiendrai mon point de vue. Alors, bien différent, bien sûr, et le rôle du Conseil d'État en matière législative et réglementaire. Mais je passerai quand même vite sur le Conseil d'État. Si vous voulez me poser ensuite des questions sur le Conseil d'État, j'essaierai d'y répondre. Mais je ne voudrais pas, encore une fois, concentrer cet exposé sur le Conseil d'État. Ça ne donnerait pas une vue réelle de l'avis de l'administration. Le Conseil d'État doit être consulté par le gouvernement à l'occasion de tous ses projets de loi, qu'il s'agisse de lois ordinaires, de lois organiques, de lois de finances, de lois autorisant la ratification de traités internationaux, de lois référendaires, de lois constitutionnelles. Et la Constitution étant cette obligation au projet d'ordonnance, c'est-à-dire au texte réglementaire pris par le gouvernement en vertu d'une habilitation parlementaire et qui sont destinés à avoir force de loi. Alors le Conseil d'État a une acception large de son pouvoir consultatif. Son examen dépasse le strict cadre du droit, c'est-à-dire le respect des règles constitutionnelles, le respect des règles de compétence, le respect des règles de procédure préalable au dépôt d'un projet de loi, la présentation matérielle du projet, sa rédaction, qui doit être dépourvue, bien sûr, d'obscurité et d'ambiguïté. Le Conseil d'État considère que il doit également faire porter son examen sur la bonne administration. Par exemple, sur l'adéquation des moyens mis en œuvre par le gouvernement, par le projet de loi, pour atteindre le but que le gouvernement poursuit. Et la seule limite qu'il s'impose à bon droit est celle de l'opportunité politique, et la frontière entre bonne administration et opportunité politique n'est pas aussi difficile à tracer qu'on pourrait le croire a priori. Par exemple, le Conseil d'État pourrait bien dire au gouvernement « Avec la lourdeur des dispositions que vous prévoyez, vous aurez le plus grand mal du monde à atteindre l'objectif que vous poursuivez. » Mais il ne le dira jamais. Ce n'est vraiment pas le moment, après la défaite que vous venez de subir aux élections locales, de déposer un tel projet. Ça, le Conseil d'État s'interdira une telle appréciation qui est de la pure opportunité politique. Voilà, je caricature un peu, bien sûr, mais c'est pour mieux me faire comprendre. Alors, je n'entrerai pas ici dans les détails de la procédure suivie au sein du Conseil d'État pour l'examen des projets de loi. Je me bornerai à préciser que l'examen des projets de loi s'achève en règle générale en Assemblée générale, présidée par le vice-président, en présence des représentants du gouvernement, qui ne sont pas des témoins muets, mais qui, bien sûr, ne prennent pas part au vote. Je préciserai simplement qu'à la différence de la pratique suivie par certains conseils d'État étrangers, pourtant les fils spirituels du Conseil d'État français, l'avis du Conseil d'État ne prend pas la forme de considérations rédigées dans un style littéraire, mais est présenté comme un contre-projet articulé qui s'écarte plus ou moins de l'avant-projet du gouvernement, et le gouvernement compare son avant-projet et l'avant-projet que le Conseil d'État lui propose. Et c'est là la traduction du Conseil d'État depuis la Constitution de l'an 8, dont l'article 32 donnait mission à ce Conseil de rédiger les projets de loi. Et nous n'avons pas cessé de rédiger des projets de loi dont le gouvernement fait ensuite ce qu'il veut. Alors ce contre-projet est parfois assorti d'une note, en général brève, attirant l'attention du gouvernement sur les motifs qui ont amené le Conseil d'État à s'écarter du point de vue du gouvernement lorsque les représentants du gouvernement indiquent au Conseil d'État que le gouvernement n'est pas prêt à se rallier à la position du Conseil d'État. Alors dans ce cas, le Conseil d'État conforte sa propre prise de position, qui est en général fondée sur des considérations de droit, par une note qui expose les motifs pour lesquels il s'écarte de l'avant-projet du gouvernement. Alors cet avis est destiné au seul gouvernement, c'est donc un avis secret. Il est bon qu'il en soit ainsi. À mon avis, c'est une condition de la sérénité des débats au sein du Conseil et des relations de confiance qui existent entre l'exécutif et son conseiller. Alors dans la pratique, il arrive qu'à l'occasion des débats parlementaires, le gouvernement fasse connaître, en tout ou en partie, l'avis du Conseil d'État, mais c'est là son affaire, car l'avis rendu est sa propriété. Dès lors qu'il est rendu, il est la propriété du gouvernement. Le gouvernement peut en faire ce qu'il veut. Et l'expérience prouve toutefois que le gouvernement ne recourt à cette pratique que lorsque l'avis du Conseil d'État va dans le sens de ses propres propositions. Par conséquent, la levée du secret des avis du Conseil d'État n'est donc pas toujours totalement innocente, pour employer une litote. D'une façon générale, le gouvernement dispose bien sûr d'une grande liberté à l'égard de ses avis purement consultatifs. Il est cependant lié par l'obligation constitutionnelle de ne retenir sur un point déterminé que son propre projet ou l'avis du Conseil d'État. S'il retenait en effet une tierce solution, le Conseil d'État ne pourrait pas être réputé avoir été consulté sur cette solution. Et il est arrivé une fois que le Conseil constitutionnel censure une loi pour ce motif. Il s'agissait précisément du mode de scrutin pour les élections régionales. Le gouvernement avait saisi le Conseil d'État d'un texte disant que pour être présent au deuxième tour, il fallait avoir 10% des électeurs des suffrages exprimés. Ça a été discuté au Conseil d'État. Je ne sais plus quelle est la solution, ma mémoire est infidèle là-dessus, qui avait été proposée par le Conseil. Et en Conseil des ministres, le gouvernement a inventé une règle tout à fait nouvelle qui était 10% des inscrits. Alors, lorsque cette loi a été votée, elle a été déférée par l'opposition au Conseil constitutionnel, et dans son immense sagesse, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition était entachée d'un vice de procédure, le Conseil d'État n'ayant pas été consulté sur le projet de loi. Voilà donc un exemple qui nous ramène à l'actualité d'aujourd'hui, enfin en tout cas à l'actualité d'hier. Quelques chiffres pour apprécier l'activité consultative du Conseil d'État en matière législative. Je n'ai eu sous les yeux que les chiffres de 2008. En 2008, le Conseil d'État avait tenu 34 séances d'Assemblée générale, au cours desquelles il avait examiné 40 textes de portée législative. À ces chiffres, il faut ajouter 11 réunions de la commission permanente, c'est-à-dire de la formation interne au Conseil qui est convoquée en cas d'urgence. Et 11 réunions de la commission permanente, c'est énorme. De mon temps, la commission permanente se réunissait une fois par an pour examiner la partie chiffrée de la loi de finances. Là, 11 réunions, au cours desquelles 12 projets de loi ont été examinés, ce qui est considérable et révèle donc un notable changement de la pratique du gouvernement par rapport à des époques antérieures. Et au total, donc, le Conseil d'État donnait son avis sur 52 projets de loi en 2008, ça veut dire un par semaine en moyenne. Enfin, ce n'est pas comme ça exactement que ça se déroule dans le temps. En août, les sections administratives du Conseil d'État ont donné leur avis sur 708 décrets réglementaires, chiffre qui permet de mesurer de façon plus exacte l'ampleur de la tâche à laquelle le Conseil doit faire face et permet d'apprécier le prurit normatif qui affecte nos gouvernants et qui semble ne pas se soigner très facilement. Mais je ne veux pas m'apesantir sur le rôle consultatif du Conseil d'État. Tout à l'heure, si vous avez des questions là-dessus, nous y reviendrons. Pour avoir une juste appréciation de la fonction consultative dans notre pays, il faut évoquer, j'y reviens comme tout à l'heure, il faut évoquer la myriade d'organismes consultatifs qui entourent l'exécutif. Il s'est créé une véritable administration consultative, pour reprendre les termes qu'avait employé Bernard Chenot autrefois, qui finit par enserrer le gouvernement dans le filet d'une procédure fort contraignante. Il est très facile de créer des organismes consultatifs, il suffit d'un décret. Par conséquent, on peut faire plaisir aux gens à peu de frais pour satisfaire une catégorie d'usagers. Pour répondre à la pression de groupes économiques et sociaux, il est tentant de recourir à cette formule. Mais le recours systématique à la consultation présente des inconvénients au moins juridiques. Car la consultation obéit à des règles dont la plupart sont ce que nous appelons, nous, des formalités substantielles, c'est-à-dire que leur violation entraîne l'illégalité de la décision prise. L'organisme consultatif était-il régulièrement composé ? L'organisme consultatif a-t-il été régulièrement convoqué ? La question qui lui a été soumise était-elle exhaustive ? L'avis a-t-il été émis lui-même dans des conditions régulières ? Il y a là tout un formalisme minutieux qui fait le bonheur des procéduriers et l'administration perd un temps précieux à organiser ces organismes consultatifs, à les composer, à organiser leur secrétariat, à assurer leurs séances. Dans les administrations centrales, il y a des fonctionnaires dont le rôle n'est que de faire vivre des organismes consultatifs. Il faut bien en avoir conscience. Ce sont là des contraintes qui engendrent des lourdeurs condamnables. Aussi, de temps à autre, le gouvernement se décide à faire le ménage, si vous me passez la familiarité de l'expression. La dernière manifestation de cette louable entreprise est la publication de deux décrets, les 7 et 8 juin 2006, sur la réduction du nombre, la simplification et le fonctionnement des commissions administratives. Mais cet effort n'est pas suffisant. L'administration reste confrontée aux problèmes récurrents du respect des procédures consultatives, aussi nombreuses que lourdes, dont la pertinence n'apparaît pas toujours avec clarté. La plus grande incertitude règne parfois quant au champ de compétences exact des commissions consultatives nationales, faute que les textes aient été assez bien rédigés et que leur portée ait été correctement anticipée. Il en résulte des pertes de temps, des lourdeurs procédurales et des risques contentieux qui ne sont pas compensés par une meilleure qualité de la règle de droit. Au contraire, pour satisfaire au moins partiellement les organismes consultatifs, l'exécutif est conduit à édulcorer, assouplir, sinon même parfois obscurcir ces textes normatifs. Quant à l'institution des débats publics, auxquels je me référais tout à l'heure, ces débats publics vont peser encore davantage sur la décision. Il s'agit là d'une création récente qui répond au souci d'associer le public au sens le plus large et le plus indéterminé qui soit, le public, à la préparation des grandes décisions d'aménagement. Alors que l'idée de participation à la libération et même encore dans le projet de révision de la Constitution de 1969, était lié à l'intervention de l'État dans le domaine économique et social. Ici, c'est le souci de préservation de l'environnement qui est à l'origine de ce renouveau de la participation. Alors que la participation aux mesures d'interventionnisme économique et social était réservée aux organismes syndicaux et professionnels, patronats et ouvriers, c'est maintenant le public, de la façon la plus indéterminée qui soit, qui est l'objet de la sollicitation des pouvoirs publics. Toute personne a le droit de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, énonce l'article 7 de la Charte de l'environnement que je cite à nouveau. Alors cette proclamation a certainement une valeur constitutionnelle, mais dans un texte de valeur constitutionnelle, adossé, comme on dit, à la Constitution, voté dans les conditions d'une révision de la Constitution, alors là, de façon beaucoup plus prudente, je dirais qu'ayant une nature constitutionnelle, il n'est pas avéré qu'elle ait une portée juridique. Qu'elle est une portée normative directe. Mais je m'avance là, évidemment, avec la plus grande précaution. En droit, elle renvoie en effet à la loi. Donc on peut considérer que c'est à la loi à la mettre en œuvre. Et elle a d'ailleurs des antécédents. La loi de 1995, dite loi Barnier, la loi de 2002, dont je vais dire un mot à un instant. Et puis, il y a des conventions internationales. La convention d'Aarhus de 1998, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, nous nous sommes engagés, pieds et poings liés, dans des procédures internationales relatives à la façon dont, État par État, on allait associer le public à la détermination des grands projets. C'est, à mon avis, de la furie pure et simple. Et puis, une directive européenne de 2003 que nous respectons. Donc, de façon directement opérationnelle, le livre 1 du Code de l'environnement contient un chapitre consacré à la, je cite d'ailleurs son titre exact, « la participation du public à l'élaboration de projets d'aménagement et d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement des territoires. La mise en œuvre de ce principe est confiée, à une autorité administrative indépendante, bien sûr. La Commission nationale du débat public, qui est composé de parlementaires, de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants d'associations de protection de l'environnement, de représentants des consommateurs et des usagers et de personnalités qualifiées. Nous les retrouvons là. Saisie de tous les grands projets d'aménagement et d'équipement, la Commission nationale du débat public décide des modalités de participation du public au processus de décision et elle peut, ça c'est la formule suprême, l'association du public, organiser un débat public pour une durée qui peut s'étendre jusqu'à 4 mois. Et à l'issue de cette procédure, elle publie un compte-rendu et dresse un bilan de ce débat. L'organisation de ce débat est indépendante de la décision qui sera prise ultérieurement. Par lui-même, n'a pas du tout de valeur décisionnelle. La procédure, si on considère qu'il faille la continuer, reprendra selon les formules juridiques habituelles, déclaration d'utilité publique, expropriation, etc. Mais ce débat public peut peser par sa portée, par les conclusions qu'on en tire, sur le sens et la portée de la décision. C'est une procédure donc longue et coûteuse. C'est le maître de l'ouvrage futur, l'auteur du projet, qui supporte ce coût. Donc ce n'est pas toujours l'État qui le supporte. Elle ne peut être mise en œuvre que pour de très grands projets, et bien sûr, compte tenu de sa lourdeur. Elle a incontestablement retenu l'attention des intéressés, non pas tant d'ailleurs le grand public lui-même que les grandes associations de défense de l'environnement. Elle a souvent donné lieu à des débats substantiels avec des réunions publiques, des expositions, la mise à disposition de documents, de maquettes, de photographies, de données très complètes, par exemple à l'occasion d'un projet qui a été abandonné d'ailleurs après le débat public, la création d'une ligne électrique à très haute tension qui devait traverser les gorges du Verdon, le projet de contournement autoroutier de Bordeaux a été profondément modifié à l'issue du débat public, le tracé de certaines lignes ferroviaires à grande vitesse, etc. Alors c'est cette procédure, non pas tellement à faire accepter la décision finale, car elle sera toujours contestée par certains, mais en tout cas à la rendre acceptable, parce que, précisément, tout le monde aura pu s'exprimer et chacun aura pu être entendu. Et elle présente l'avantage d'intervenir suffisamment à l'amont de la décision, à la différence de la déclaration d'utilité publique qui intervient lorsque le tracé est quasiment décidé à quelques centaines de mètres près, pour que l'opportunité du projet ainsi que les différentes modalités de celui-ci puissent être discutées et que le projet puisse, le cas échéant, être remanié, voire abandonné. Ainsi, cette forme de démocratie participative vient peser sur l'exercice de la démocratie représentative, même si à l'issue de la procédure, c'est l'autorité publique légitime qui a le dernier mot. Alors, il est difficile de dresser un bilan et de formuler un jugement sur la fonction de consultation dans notre pays aujourd'hui. Il existe une trop grande hétérogénéité dans les organismes consultatifs et dans la portée des avis qu'on leur demande. On ne peut pas comparer le Conseil d'État, organisme au statut constitutionnel, fonctionnant en relation permanente avec le gouvernement, puisqu'il est son conseiller juridique, et le comité de la pomme, qui assiste, je ne sais pas s'il existe encore, mais je sais qu'il a existé, assistant épisodiquement le ministre de l'Agriculture pour représenter les intérêts professionnels des producteurs de ce fruit, par ailleurs, délicieux. Mais dans un pays très administré comme le nôtre, la fonction consultative est utile pour l'administration, incontestablement, afin qu'elle n'intervienne pas à l'aveugle, et pour les entrepreneurs, par exemple, afin qu'ils puissent faire entendre leur voix. Je ménage mon voisin, comme vous le voyez. Dans un pays qui demeure assez corporatiste, la représentation des intérêts économiques et des groupements professionnels auprès des pouvoirs publics suscite encore un engouement certain, on ne peut pas le nier, il faut le constater. La fonction consultative répond donc à un souhait, et elle répond également en partie au moins à un besoin. La question demeure de savoir si parfois elle n'a pas d'autre objet que de sacrifier un rite au risque de ralentir l'action et d'affadir la décision. La question mérite d'être posée. Enfin, et ce seront mes derniers mots après ce trop long exposé, il faut mentionner la possible absorption de la fonction normative par la fonction consultative. On peut relever cette tendance dans l'institution des organismes dits de régulation et au cours des dernières années, des organismes collégiaux extérieurs à l'exécutif se sont vus attribuer des pouvoirs normatifs. Sans doute ne s'agit-il pour eux que d'édicter des règles très techniques dictant la conduite professionnelle d'opérateurs, comme on dit. Mais cette pratique législative n'en dénote pas moins un transfert du pouvoir réglementaire, des autorités qui en sont investies par la Constitution, le président de la République, le Premier ministre, ou en application de la Constitution, les ministres. Et donc un transfert à des collèges composés le plus souvent de professionnels à qui l'on adjoint des fonctionnaires et parfois des magistrats et qui ne sont en rien soumis au pouvoir hiérarchique de l'exécutif et qui ne sont donc pas dans la chaîne du pouvoir réglementaire. C'est un phénomène qui se manifeste dans les attributions qui sont parfois consenties à des autorités administratives indépendantes, et c'est là un sujet qui mériterait à lui seul une étude. La frange est étroite entre ce qui peut être admis sur le plan constitutionnel et ce qui pourrait être regardé comme transgressant les termes de la Constitution. Monsieur le Président, mes chers confrères, j'en ai terminé.
Vous venez d'entendre l'académicien Renaud Denoy de Saint-Mars, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et sa communication prononcée le 15 mars devant ses confrères à l'Académie des sciences morales et politiques en séance. Sa communication avait pour titre « La fonction de conseil en démocratie ».